Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez La Voix de l'Indonésie de vos ZDP Jakarta. Nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La revue suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons de Kroncong. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Les étudiants islamiques indonésiens regroupés dans la branche spéciale de Nahdlatul Ulama en Égypte a porté le thème « Réflexion dans l'art et la culture » pour commémorer la Journée nationale de Santri. Le président du conseil d'administration de Nahdlatul Ulama, Tanfiziah en Égypte, M. Ilham Abdul Haq, a déclaré que le thème « Réflexion » a été traduit en performance artistique et culturelle. Ilman a dit que la sélection des spectacles artistiques et culturels lors de la commémoration de la Journée nationale de Santri au Caire montre que la religion ne se limite pas au culte. Cependant, on la réalise aussi dans la bonté ou l'art et la culture comme partie intégrante. Diverses activités ont commencé à la célébration de la Journée nationale de Santri. L'un d'entre eux est un concours de mémorisation de Al-Qur'an suivi par 30 participants de diverses organisations islamiques et de la parenté au Caire.
Agama bagi saya tidak hanya menyoal ritus.
La religion pour moi ne concerne pas seulement les rites de coupe ou les textes primaires. Elle est plus vaste que cela. Nous atteignons aussi l'esprit de la culture, de l'art et la littérature. Pourquoi nous faisons de l'art sans la bonté, tandis que la religion porte les missions de la bonté commune. Ilman M. Abdul Haq a déclaré que lorsque la Journée nationale de Santri, il espère que tous les étudiants indonésiens en Égypte puissent interpréter comme un esprit d'étudier avec diligence afin d'obtenir leur diplôme à temps. Cependant, la fixation de la Journée nationale de Santri du 22 octobre est énoncée dans le décret présidentiel numéro 22 l'année 2015. Tandis que l'histoire a noté que le 22 octobre 1945, les Santri et les Ulama des internats islamiques de diverses régions de l'Indonésie obligeaient chaque musulman de défendre la patrie et défendre l'indépendance de la République unitaire d'Indonésie contre les envahisseurs. Il a montré que les Ulama et les Santri ont joué un grand rôle dans la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie et ont défendu l'État unitaire de la République d'Indonésie. Le secrétaire général du Conseil de Nahdlatul Ulama, M. Marzudi Syuhud, lors d'une commémoration de la Journée nationale de Santri à Silang Monas, Jakarta, a déclaré samedi que la commémoration de la Journée nationale de Santri devait être un engagement fort pour tous les musulmans indonésiens afin de promouvoir le sang nationaliste de la nation indonésienne. Marsudi a également déclaré que les musulmans indonésiens doivent s'unir pour maintenir La souveraineté et l'unité de l'Indonésie.
Diperingatinya Hari Santri adalah untuk mengukuhkan kembali
La commémoration de la journée du Santri vise à réaffirmer l'engagement des musulmans indonésiens à l'unité de la nation indonésienne. Le renforcement de cet engagement national est très important afin que l'esprit du nationalisme soit connecté sans interruption. Marsudi Suhud a également déclaré que l'anniversaire de la journée nationale du Santri est également un élan pour les musulmans à prendre une promesse nationale. La promesse est de garder Pancasila comme le fondement de la vie de la nation et de l'État pour sauvegarder l'État unitaire de la République d'Indonésie et rejeter toutes les formes de radicalisme, de terrorisme et contre toutes les formes de menaces qui pourraient diviser la nation. Le succès du gouvernement indonésien d'exporter du riz vers la Malaisie est la preuve que l'Indonésie possède un excédent de riz. Le chef de l'Agence de sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture, M. Agung Hendriadi, après la fermeture de la 37e journée mondiale de l'alimentation à Pontianak, Kalimantan Ouest, a déclaré dimanche que les exportations de riz jusqu'à 25 tonnes de la région de Sangau, Kalimantan Ouest. La Malaisie est la deuxième exportation du riz pendant le gouvernement de Joko Widodo. Auparavant, l'Indonésie a également exporté du riz vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, provenant de la région de Merauke, la province de Papouasie. Le gouvernement continuera à encourager les exportations des denrées alimentaires de la région frontalière, comme la réalisation de la diffusion du gouvernement de l'Indonésie. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, a déclaré que les chances de l'industrie de chantier naval étaient encore très grandes en utilisant divers marchés maritimes. Le gouvernement place actuellement le secteur maritime comme l'un des secteurs prioritaires du développement national. C'est ce qu'a déclaré le ministre Erlangga Hartanto à Serang, Banten, dimanche. Selon lui, les navires pour les transports en Indonésie sont encore beaucoup exportés dans l'étranger. C'est une grande opportunité pour l'industrie du chantier naval national. Le gouvernement a donné diverses incitations fiscales pour l'industrie nationale du chantier naval, y compris des droits à l'importation payés par le gouvernement pour 15 composants de navires qui ne peuvent pas être produits dans le pays. En outre, le gouvernement fournit des facilités d'impôt sur le revenu sous forme de déduction fiscale pour les chantiers navals. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises facilite 13 PME Indonésie pour assister à l'exposition universelle de l'Asie 2017 qui a eu lieu à Hong Kong du 18 au 22 octobre 2017. Une variété de la créativité de fabrication artisanale unique résulte des petites et moyennes entreprises indonésiennes commercialisées dans l'exposition. Les artisans indonésiens ont reçu l'appréciation du président de la SEA World Expo 2017, Cameron Walker. L'ambassadeur de coopérative en Indonésie, M. Dedi Gumelar, à Hong Kong, dimanche, a déclaré que Cameron espère l'Indonésie continue à développer l'artisanat unique. Il a promis de fournir l'accès au marché et plus de possibilités pour les PME indonésien a participé aux expositions à l'étranger. Asia World Expo 2017 est la plus grande exposition qui était assistée par les hommes d'affaires de divers pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé Le rôle des Santri et des Ulama dans la défense du pays. Depuis 2015, le gouvernement indonésien a fixé le 22 octobre comme la journée des Santri. En général, le santri est la désignation pour quelqu'un qui suit l'enseignement religieux islamique dans les pesantren ou les écoles coraniques. La commémoration de la journée de santri a été commencée lors de la réunion des représentants de plusieurs organisations de la société civile islam, historiens et spécialistes de l'islam, qui a tenu à Bogor-Jepowets le 22 avril 2015. Le thème principal à ce moment-là est la discussion sur la fixation de la journée de santri. La réunion des deux jours est la commande directe du président Joko Widodo au ministre des Affaires religieuses, M. Luqman Hakim Saifuddin. Diverses idées ont émergé au cours de la réunion, comme par exemple la journée de santri va créer exclusivisme, parce qu'il y a la possibilité que d'autres groupes en dehors des santri exigeront la même chose. Mais cette question n'est pas raisonnable parce qu'il doit être souligné le rôle important des santri dans l'histoire, surtout dans la lutte et de maintenir l'indépendance de l'Indonésie. Basé sur la pensée, le 22 octobre est proposé comme la journée des santri. Selon l'histoire, le 22 octobre 1945, le fondateur de Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, a publié une résolution de jihad pour lutter de maintenir l'indépendance de l'Indonésie. Le contenu de la résolution de jihad affirme que la défense de la patrie est fardu ain, ou l'obligation individuelle pour chaque musulman en Indonésie. Le rôle des étudiants ne peut pas être séparé de la lutte de l'Indonésie, que ce soit avant l'indépendance et après l'indépendance. La journée de santri est fixée pour être célébrée à l'échelle nationale par le décret présidentiel numéro 22 l'année 2015. La décision du gouvernement de fixer le 22 octobre comme la journée nationale des santri est la bonne décision. N'est pas pour créer exclusivisme, mais afin d'affirmer que le rôle des santri et des ulama dans le maintien de l'indépendance est très grand. On souhaite que la journée des santri ne soit pas seulement une cérémonie. L'Indonésie a encore besoin du grand rôle des santri et des ulama pour l'amélioration de la nation. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 23 octobre 1946, la première réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'Assemblée générale des Nations unies est l'un des 6 organes principaux de l'ONU. Les membres de l'Assemblée générale est composé de tous les États membres de l'ONU et se réunit chaque année sous la direction du président de l'Assemblée générale des Nations unies, élu par les représentants des États membres. La première réunion de l'Assemblée générale de l'ONU au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis, a lieu le 23 octobre 1946. La réunion suivante de l'Assemblée générale est commencée au troisième mardi de chaque septembre et se termine à la mi-décembre. Le 23 octobre 1973, le cessez-le-feu initié par l'ONU pour finir officiellement la guerre de Yom Kippour. Cette guerre a eu lieu en 1973 entre l'Israël contre l'Égypte et la Syrie. La guerre de Kippour a été commencée lorsque les armes de l'Égypte et la Syrie ont attaqué le 6 octobre 1973, qui a eu lieu à la fête juive de Yom Kippour, qui est précédée par une attaque de l'Égypte et de la Syrie. L'Égypte et la Syrie ont essayé de répandre leur territoire étant perdu à la suite de la défaite dans la guerre de Cisjour contre l'Israël en 1967. Le 23 octobre 2002, les rebelles tchétchènes ont saisi le théâtre de Moscou et ont pris en otage 850 personnes. En outre, les armes de fusil semi-automatiques des terroristes portaient aussi une bombe à la ceinture prête à exploser. Ils se déclarent des membres des forces armées de la Tchétchénie. Ils ont exigé que la Russie retire immédiatement les forces militaires de la Tchétchénie, la zone de conflit qui est située dans les montagnes du nord de Caucase. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, voici donc la mise au point et pour le titre. L'Indonésie a réussi à encourager la protection des pêcheurs à l'OMC. L'Indonésie et plusieurs autres pays ont réussi à encourager un pas en avant pour la protection des petits pêcheurs dans les négociations de l'OMC à Genève récemment. En communiqué de presse du représentant permanent de l'Indonésie à Genève, vendredi le 20 octobre 2017, indiqué qu'un certain nombre de propositions avaient été soumises par sept membres de l'OMC qui souhaitait la mise en place d'une discipline en matière de subvention aux pêcheries. Ils ont produit un seul texte. Il contient les éléments de discipline qui seront la base des négociations de tous les membres de l'OMC. Après un processus de négociation de 10 ans à l'OMC, l'Indonésie et d'autres promoteurs ont introduit avec succès un texte qui servira de base aux négociations à l'OMC. Le texte est un progrès important qui doit être continué concrètement dans le processus de négociation jusqu'à la 11e conférence ministérielle de l'OMC. Avec ce texte, tous les membres de l'OMC devraient contribuer plus concrètement au processus de négociation de la question des subventions à la pêche dans le cadre de la conférence ministérielle de l'OMC à Buenos Aires en Argentine les 10 et 13 décembre 2017. Parmi les éléments importants du texte qui deviennent l'attention des membres de l'OMC, entre autres, l'ouverture, la définition, la portée, les subventions prohibées, l'impasse, le traitement spécial et différent, la transparence, les dispositions transitoires et les arrangements institutionnels, la délégation indonésienne joue un rôle important dans la mise en place de cette discipline. Compte tenu les instruments générés à partir du texte liés à tous les membres de l'OMC. L'interdiction des subventions à la pêche est considérée comme un effort efficace pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non autorisée, la surpêche et la surcapacité. Il est certainement conforme à la politique de tolérance zéro de la pêche illégale, non déclarée et non autorisée proposée par l'Indonésie. Toutefois, compte tenu de la réglementation de la portée des subventions prohibées, l'Indonésie doit garantir le don de flexibilité subventionnée pour les membres des pays en développement, y compris l'Indonésie, puisse encore être fournie. Il vise à fournir une protection aux petits pêcheurs qui pratiquent des activités de pêche artisanale et à petite échelle. À cette fin, l'Indonésie doit assurer que les éléments clés de la proposition de l'Indonésie sont inclus dans le texte unique. Dans les négociations de l'OMC sur les subventions à la pêche, l'Indonésie est représentée par des délégués des représentants permanents de la République d'Indonésie à Genève. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
Les étudiants islamiques indonésiens regroupés dans la branche spéciale de Nadatul Ulama en Égypte a porté le thème Réflexion dans l'art et la culture pour commémorer la journée nationale de Santri. Le président du conseil d'administration de Nahdlatul Ulama, Tanwizia en Égypte, M. Ilham Abdul Haq, a déclaré que le thème Réflexion a été traduit en performance artistique et culturelle. Ilman a dit que la sélection des spectacles artistiques et culturels lors de la commémoration de la Journée nationale de Santri au Caire montre que la religion ne se limite pas au culte. Cependant, on la réalise aussi dans la bonté, où l'art et la culture comme partie intégrante. Diverses activités ont commencé à la célébration de la Journée nationale de Santri. L'un d'entre eux est un concours de mémorisation de Al-Qur'an suivi par 30 participants de diverses organisations islamiques et de la parenté au Caire.
Agama bagi saya tidak hanya menyoal ritus.
La religion pour moi ne concerne pas seulement les rites de coupe ou les textes primaires. Elle est plus vaste que cela. Nous atteignons aussi l'esprit de la culture, de l'art et la littérature. Pourquoi nous faisons de l'art sans la bonté, tandis que la religion porte les missions de la bonté commune. Ilman M. Abdul Haq a déclaré que lorsque la Journée nationale de Santri, il espère que tous les étudiants indonésiens en Égypte puissent interpréter comme un esprit d'étudier avec diligence afin d'obtenir le diplôme à temps. Cependant, la fixation de la Journée nationale de Santri du 22 octobre est énoncée dans le décret présidentiel numéro 22 l'année 2015. Tandis que l'histoire a noté que le 22 octobre 1945, les Santris et les Ulémas des internats islamiques de diverses régions de l'Indonésie obligeaient chaque musulman de défendre la patrie et défendre l'indépendance de la République unitaire d'Indonésie contre les envahisseurs. Il a montré que les Ulémas et les Santris ont joué un grand rôle dans la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie et ont défendu l'État unitaire de la République d'Indonésie. Le secrétaire général du Conseil de Nahdlatul Ulama, M. Marsudi Syuhud, lors d'une commémoration de la Journée nationale de Santri à Silang Monas, Jakarta, a déclaré samedi que la commémoration de la Journée nationale de Santri devait être un engagement fort pour tous les musulmans indonésiens afin de promouvoir le sang nationaliste de la nation indonésienne. Marsudi a également déclaré que les musulmans indonésiens doivent s'unir pour maintenir la souveraineté et l'unité de l'Indonésie.
Diperingatinya Hari Santri adalah untuk mengukuhkan kembali komitmen.
La commémoration de la Journée du Santri vise à réaffirmer l'engagement des musulmans indonésiens à l'unité de la nation indonésienne. Le renforcement de cet engagement national est très important afin que l'esprit du nationalisme soit connecté sans interruption. Marsudi Syuhud a également déclaré que l'anniversaire de la Journée nationale de Santri est également un élan pour les musulmans à prendre une promesse nationale. La promesse est de garder Pancasila comme le fondement de la vie de la nation et de l'État, pour sauvegarder l'État unitaire de la République d'Indonésie et rejeter toutes les formes de radicalisme, de terrorisme et contre toutes les formes de menaces qui pourraient diviser la nation. Le succès du gouvernement indonésien d'exporter du riz vers la Malaisie est la preuve que l'Indonésie possède un excédent de riz. Le chef de l'Agence de sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture, M. Agung Hendriadi, après la fermeture de 37e Journée mondiale de l'alimentation à Pontianak, Kalimantan Ouest, a déclaré dimanche que les exportations de riz jusqu'à 25 tonnes de la région de Sangau, Kalimantan Ouest, la Malaisie, est la deuxième exportation de riz pendant le gouvernement de Joko Widodo. Auparavant, l'Indonésie a également exporté du riz vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, provient de la région de Merauke, la province de Papouasie. Le gouvernement continuera à encourager les exportations des denrées alimentaires de la région frontalière, comme la réalisation de la fission du gouvernement de l'Indonésie. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, a déclaré que les chances de l'industrie de chantier naval étaient encore très grandes en utilisant divers marchés maritimes. Le gouvernement place actuellement le secteur maritime comme l'un des secteurs prioritaires du développement national. C'est ce qu'a déclaré le ministre Erlangga Hartanto à Serang, Banten, dimanche. Selon lui, les navires pour les transports en Indonésie sont encore beaucoup exportés dans l'étranger. C'est une grande opportunité pour l'industrie du chantier naval national. Le gouvernement a donné diverses incitations fiscales pour l'industrie nationale du chantier naval, y compris des droits à l'importation payés par le gouvernement pour 15 composants de navires qui ne peuvent pas être produits dans le pays. En outre, le gouvernement fournit des facilités d'impôt sur le revenu sous forme de déduction fiscale pour les chantiers navals. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises facilite 13 PME Indonésie pour assister à l'exposition universelle de l'Asie 2017 qui a eu lieu à Hong Kong du 18 au 22 octobre 2017. Une variété de la créativité de fabrication artisanale unique résulte des petites et moyennes entreprises indonésiennes commercialisées dans l'exposition. Les artisanats indonésiens ont reçu l'appréciation du président de la SEA World Expo 2017, Cameron Walker. L'ambassadeur de coopératives en Indonésie, M. Dedi Gumelar, à Hong Kong, dimanche, a déclaré que Cameron espère l'Indonésie continue à développer l'artisanat unique. Il a promis de fournir l'accès au marché et plus de possibilités pour les PME indonésiens à participer aux expositions à l'étranger. Asia World Expo 2017 est la plus grande exposition qui était assistée par les hommes d'affaires de divers pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Pour aujourd'hui, nous vous invitons à visiter une destination touristique en province de Sumatra du Nord. Alors, soyez toujours avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Sumatra du Nord a divers objets touristiques potentiels intéressants à visiter. Comme par exemple, dans la région de Simalungun, le nord de Sumatra, qui a quelques objets de tourisme avec des paysages étonnants. Récemment, il y a un objet touristique intéressant à Simalungun qui attire des touristes nationaux et étrangers. L'objet touristique avec piscine aussi claire que le miroir est Aik Manigom Simalungun. Auparavant, Umbul Manigom Simalungun ou Aik Manigom Simalungun n'était pas connu par beaucoup de gens. Son emplacement qui est loin du centre-ville rend les touristes paresseux pour venir à cet endroit. C'est la raison qui fait négliger le lieu de baignade. Mais maintenant, de nombreux touristes aiment prendre des photos et partager leurs photos sur les réseaux sociaux. Ces photographies sont virales et discutées par beaucoup de gens. Maintenant, Ayek Mani Gomsi Malung devient un objet touristique qui attire les touristes nationaux et étrangers. Ayek Mani Gomsi Malung est situé à Nagori Tiga Dolo, sous-communauté de Dolok Pangaribuan, la résidence de Simalungun. Cet objet de tourisme dispose d'une piscine à l'eau claire qui provient de trois sources. En outre, la piscine a un niveau de profondeur différent. L'objet touristique est entouré de pierres et d'ombrages qui sont souvent utilisés par les visiteurs pour se détendre tout en profitant de la beauté de la nature. Le bon moment pour visiter Ayek Mani Gomsi Malungun est dans l'après-midi. L'air frais et les arbres d'ombrage entourant la zone sont si beaux lorsqu'ils sont éclairés par la lumière du soleil. Ayek Mani Gomsi Malungun peut être accessible en utilisant des véhicules privés. Pour entrer dans l'objet touristique, chaque touriste sera facturé 1000 rupiah par personne et 2000 rupiah pour le stationnement. C'était le magazine Contre pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonsoir tout le monde, merci d'écouter la voix d'Indonésie dans la rubrique « Apprendre l'indonésien » qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est « Ramalan Cuaca di Jakarta » ou « Les prévisions météorologiques à Jakarta ». Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement deux fois par mot et vous le répétez après moi. Ramalan cuaca. La ramalan cuaca. Prévision météorologique. Membawa. Membawa en français, porter. Payung. Payung en français, parapluie. Lupa, lupa en français, oublier. Mengapa, mengapa en français, pourquoi. Sekarang, sekarang en français, maintenant. Turun hujan en français, pleuvoir. Tadi pagi en français, ce matin. Keluar, keluar en français, sortir. Rumah, rumah en français, maison. Cerah, cerah en français, il fait beau. Menurut, menurut en français, selon. Sore hari en français, après-midi. Malam hari en français, nuit. Akhir-akhir ini, en français, dernièrement. Pemanasan global, en français, réchauffement climatique. Saran, saran, en français, suggestion. Chers auditeurs, maintenant on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Buddy A et Steph B à la maison. A. Steph, apakah kamu membawa payung? Je répète. Steph, apakah kamu membawa payung? En français. Steph, apportez-vous un parapluie? B. Tidak. Tidak. En français. Non. B. Saya lupa membawa payung. Saya lupa membawa payung. En français, j'ai oublié de porter un parapluie. Mengapa? Mengapa? En français, pourquoi? A. Sekarang sedang turun hujan. Sekarang sedang turun hujan. En français, il pleut maintenant. B. Tadi pagi pada waktu saya keluar rumah, cuaca sangat cerah. Tadi pagi pada waktu saya keluar rumah, cuaca sangat cerah. En français, ce matin quand je quitte la maison, il fait beau. A. Menurut ramalan cuaca, di Jakarta akan turun hujan pada sore dan malam hari. Menurut ramalan cuaca, di Jakarta akan turun hujan pada sore dan malam hari. En français, selon les prévisions météorologiques, à Jakarta il pleuvra dans l'après-midi et le soir. B. Akhir-akhir ini cuaca sangat aneh. Akhir-akhir ini cuaca sangat aneh. En français, dernièrement le temps est très étrange. B. Mungkin karena pemanasan global. Mungkin karena pemanasan global. En français, peut-être à cause du réchauffement climatique. A. Betul. Betul. En français, c'est vrai. A. Oleh karena itu, harus selalu membawa payung walaupun cuaca cerah. Je répète. Oleh karena itu, harus selalu membawa payung walaupun cuaca cerah. En français, par conséquent, vous devriez toujours porter un parapluie malgré il fait beau. B. Baiklah, terima kasih sarannya. Baiklah, terima kasih sarannya. En français, d'accord, merci pour la suggestion. Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons keroncong. Bon, on va écouter la première chanson intitulée Pulau Jawa ou en français L'île de Java, chantée par Keksi Mulyani. Oh, C'était la chanson intitulée L'île de Java. Elle décrit la beauté et la fertilité de l'île de Java, l'une des cinq plus grandes îles de l'Indonésie. Cette chanson raconte aussi de la communauté de Java qui vivent prospère, sécuritaire et paisible. De plus, cette chanson parle des arts javanais. Elle est bien interprétée par Keksi Mulyani. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Keroncong intitulées Bhakti ou en français La Dévotion, chantée par Ismanto.
Menunaikan ditambahkan hati. Ceranir malam mendesir alun bayu bagai bahana. Teja sakti
Vous êtes en train d'écouter des chansons de Kronjong de la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Dévotion » chantée par Ismanto. C'est une vieille chanson dont le thème est l'amour de la nation et de la patrie. Ces paroles sont écrites dans des mots qui sont assez poétiques. La gloire de la patrie est le but de toute dévotion. La chanson est bien interprétée par Ismanto. La couleur vocale caractéristique du chanteur rend cette chanson agréable à écouter et capable d'évoquer un sentiment de nationalisme. Bon, chers amis, pour finir notre rencontre aujourd'hui, on écoutera les deux dernières chansons intitulées « Fleurs de tuberose » chantées par Ismanto et « Lis mes fleurs, chantée par Juliana. Bonne écoute.
Thank you.
langit biru bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi. Sedap malam semerbak mengharu, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam, pujaan setiap insan, merata rasa terang cuaca, langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi. Sedap malam semerbak mengharu, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam, pujaan setiap insan, merata rasa seluruh berbau harum.
Thank you.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons et ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.